policier pour l'épisode sur l'actualité au 19 avril 2026, enregistré le 21 avril 2026. Il y a eu quelques petits glitchs dans mon horaire. Le fait d'être revenu le 19, l'Europe ne m'a pas aidé à la situation. J'étais probablement trop ambitieux sur ma capacité sur le vol à lire toutes les nouvelles et de digérer et de préparer pour enregistrer le 19 en arrivant. Bref. Trêve de choses. Présentement, je suis à Saint-Hyacinthe, première journée de ITSEC. J'ai malheureusement pas pu y assister à grand-chose puisque mon 3 semaines de périple m'a mis largement en retard sur beaucoup de choses. Donc, je suis plus en rattrapage au niveau de ma clientèle. Donc, malheureusement, j'ai pas pu assister. Donc, je peux pas donner d'état de mon appréciation pour de ma première visite à cet événement-là, bien malheureusement. Bref, demain, c'est une autre journée. J'espère être plus chanceux et pouvoir assister à un peu plus d'événements justement pour préparer ma conférence en conséquence. Bref, trêve de flagellation, finalement. Shameless plug, 28-29 avril, Cyberéco, c'est la semaine prochaine. 9 au 17 mai, NordSec, c'est tout proche aussi également. 3 au 5 juin, Styx, très hâte d'y assister. 24 et 25 juin, Troopers en Allemagne. Peut-être y aller, c'est en évaluation, mais ça me tente beaucoup de voir cette crowd-là, cette façon-là. Puisque au bas de compte, j'ai vraiment découvert une approche à la cybersécurité plus européenne qui m'intéresse beaucoup, qui enrichit beaucoup ma connaissance. Fait que, bref, je suis beaucoup plus tenté d'aller sur des événements comme ceux-là. Le HACK, le 26 et 27 juin. B-Side à Montréal, le 19 septembre. Le 1er au 3 décembre, InCyber. 24 et 25 février, le Secure revient. On devrait commencer à annoncer des choses incessamment. Je vais commencer par un retexte de bas de compte parce que sur les petits shorts que j'ai publiés, je mentionnais que peut-être que j'enregistrais un épisode de retexte. Finalement, j'ai utilisé mon véhicule sur l'actualité pour le faire puisque ça me déplaît maintenant de faire des épisodes seuls autres que celui-ci puisque je préfère laisser le micro à des invités qui sont... Je trouve personnellement beaucoup plus intéressant que moi. Mais bref, à bas de compte, pour moi, c'était une découverte très intéressante. J'ai vu énormément de sujets qui m'ont bousculé techniquement. J'ai pas autant saigné des yeux et des oreilles que je pensais. J'ai quand même, finalement, je n'ai pas de temps perdu que ça avec les années. J'ai encore compris beaucoup de choses. Je m'en suis compris en sens où j'ai compris ce qui était dit sur la scène. Je n'ai pas été trop perdu dans ce qui était dit. Je trouve ça très, très agréable. Événement super, super plaisant, super inclusif. Ça m'a également permis de voir la ville de Reims. Et considérant que je connais très peu la France, ma géographie française, elle est faible, voire quasi nulle. Et d'ailleurs, l'année prochaine, ça avance plus en Bretagne. Donc, ça va être intéressant. C'est un secteur de la Bretagne que je ne connais pas du tout. Bref, je suis maintenant un abonné de cet événement-là. Je trouve ça hyper chouette. C'est super intéressant. J'ai appris beaucoup de choses. Toute cette diversité-là, ce regard-là sur des univers, et ça m'a rendu un peu plus paranoïaque aussi sur le milieu criminel. C'est cette facette-là que je connaissais beaucoup moins et dans laquelle qui m'a permis d'être exposé. Ça m'a aussi également permis de voir, rencontrer en personne des collaborateurs de Sequoia que j'avais vu qu'en virtuel. Donc, c'est très chouette de faire le passage de un à l'autre, de voir dans la vraie vie des gens. Donc, bref, j'ai trouvé ça super, super intéressant. Salutations à Quentin et Grégoire que j'ai croisé justement au bas de conf. Bon, bref, allons plus sur des vraies nouvelles. Au lieu du fait que je fais l'apologie d'un super événement que j'ai vraiment beaucoup adoré et que je vais retourner. Bref, première section, intelligence artificielle. Première sous-section, c'est vraiment tout sur Mythos parce que ça l'a vraiment occupé encore la semaine dernière, tout l'espace médiatique, toute cette folie-là, tout ce regard-là sur ce qui est annoncé. Je crois que tous les faits de médiatiques, en tout cas, bref, les personnes en marketing chez Anthropic sont vraiment très bonnes parce qu'ils ont réussi à monopoliser l'attention sur quelque chose qui n'est pas dit trivial, mais qui n'est pas une évolution de façon fantastique. Là, on s'en va pas avec des autos volantes. On est encore très, très loin de cet aspect-là des choses, même si le modèle lui-même est très puissant à ce qu'on peut constater ou décoder de ce qui est mentionné dans les médias. Mais pas tant spectaculaire que ça. Il y a eu d'ailleurs plusieurs démonstrations qui ont été faites sur le fait que ce qui a été trouvé par Mita, c'est probablement disponible à travers des modèles open weight ou des modèles qui sont actuellement publics. Donc, il n'y a pas de, disons, de grande révolution par rapport à ça, au-delà du fait marketing, mais ça a aussi amené OpenAI à publier peu de temps après un énoncé similaire aussi grandiose que le fait Anthropic. Donc, on a un peu cette bataille-là sur la toile de fond que Anthropic s'est fait bannir des chaînes d'approvisionnement de l'armée américaine. Donc, il y avait tout intérêt à gagner le combat de visibilité ou de sur l'espace public, de se faire valoir comme étant un joueur important, ce qui, de toute apparence, semble avoir fonctionné, puisque le gouvernement américain, ou en tout cas la Maison-Blanche, minimalement, autorise l'usage de Meta ou l'ouverture de ça. Donc, le pari de communication, de PR, de relations publiques, semblerait très bien fonctionner pour Anthropic. Fait que c'est très intéressant de voir ça, mais en même temps, puis je trouve ça un peu décevant à quel point tous les médias relatent ça et tout le discours qui, dans le fond, que les gens absorbent, c'est le discours des médias, vient juste relater cet élément-là qui est spectaculaire et qui se veut finalement une révolution énorme. Le réel, il faut le voir aussi sur le fait que, oui, il y a des éléments très importants qui ressortent, mais qui ne sont pas spécifiques à Mythos notamment, mais qui sont spécifiques à comment les modèles évoluent et à quel point ceux-ci sont de plus en plus capables de trouver des problèmes de sécurité. J'ai plusieurs articles qui étudient cette facette-là, qui est très intéressante, puis il y a d'ailleurs des études qui sont un peu plus scientifiques d'ailleurs, dans lesquelles font des démonstrations de l'usage de l'intelligence artificielle, à quel point autant ce qui est prétendu par Mythos et comment ils peuvent l'évaluer avec des modèles qui sont présentement disponible et de voir à quel point on est capable de répliquer facilement ce que Mythos aurait été semblablement fait selon les communiqués de presse. Donc, il y a un intérêt à ça et aussi tout la place des hallucinations dans l'usage ou dans la découverte de vulnérabilité est beaucoup plus importante et beaucoup plus intéressante à certains égards. Donc, il y a un balancement par ça parce que l'hallucination dans le cas de recherche de vulnérabilité va arriver à des chemins qu'on n'aurait pas pu trouver autrement. Donc, l'imagination, l'espèce de sortir de la boîte, vient dans ce cas-ci, les hallucinations avoir un bénéfice très, très important sur la capacité des modèles plus petits de trouver des vulnérabilités. Et probablement, selon certains articles d'ailleurs, la puissance dans tout ça, ça va être de réussir à combiner tous ces articles, ces agents-là ou tous ces modèles-là pour arriver à une capacité plus grande. Donc, on revient toujours à cette façon d'utiliser des petits modèles qui vont être capables de œuvrer de façon très efficace sur des problèmes complexes qui sont notamment ceux de cybersécurité ou de trouver des vulnérabilités. Mais par ailleurs aussi, puis c'est l'autre aspect aussi, puis en ce sens-là, je ne diminue pas ce que Mythos fait, mais que c'est au-delà du coût marketing, tous les agents AI à l'heure actuelle vont modifier la façon qu'on devra aborder la cybersécurité. Nos paradigmes anciens devront changer parce que ceux-ci ne sont plus valides sur la façon que l'intelligence artificielle va moduler la façon qu'on aborde les vulnérabilités, qu'on aborde la cybersécurité, comment on doit couvrir davantage les facettes. Donc, il y a un intérêt et peut-être une urgence à réfléchir la façon de faire, redesigner nos systèmes, redesigner nos façons de protéger nos systèmes pour se prémunir contre cette approche-là. Un peu comme on est en train de modifier nos approches à la cryptographie à l'arrivée du quantum, bien, l'intelligence artificielle, qui est à nos portes actuellement, le quantum est un peu plus loin, même s'il se rapproche, comme mentionné la semaine dernière, l'IA est là. Donc, on ne peut pas nier le problème qui est associé à ce genre de choses-là. Donc, on doit le traiter de façon assez importante pour avancer et pour faire quelque chose par rapport à ça, se protéger davantage, donc de changer nos paradigmes, d'aller beaucoup, beaucoup plus loin par rapport à ce type de d'éléments-là qui se présentent à nous et comment on va pouvoir se protéger également par rapport à ces systèmes-là qui vont évoluer. Mais bref, c'est pas la fin du monde, c'est pas la fin de la sécurité, c'est pas terrible. Il faut juste prendre ce wake-up call-là qui nous est fait et de se prendre en main, si on veut, et de changer nos paradigmes d'action pour faire état de ça. Et une analogie que j'aime bien utiliser par rapport à ce que l'intelligence artificielle et Mythos nous met devant nous, c'est le fait que les attaquants vont devenir vraiment comme de l'eau. Je l'utilise l'image auparavant, mais là, elle était pas aussi parlante qu'elle est avec l'intelligence artificielle parce que la capacité de travailler de façon inlassable que ces agents d'intelligence artificielle ont permet de nous aller beaucoup, beaucoup plus loin en termes de capacité. Donc, ils sont vraiment... L'analogie est vraiment beaucoup plus exacte. En l'occurrence, c'est comme de l'eau. Et l'eau va trouver tous les espaces, toutes les places possibles où elle peut s'infiltrer. Donc, ceux qui ont des maisons vont peut-être comprendre assez bien ce que ça veut dire, qu'il faut que le toit soit étanche, que notre fondation soit étanche, qu'on pousse l'eau le plus loin possible. Et c'est peut-être la meilleure analogie qu'on peut avoir, c'est repousser l'eau le plus loin possible. Donc, repousser toute capacité d'un attaquant le plus loin possible de la maison pour garder la maison sec, garder la maison le plus absente d'eau qui rentre par des zones qui sont non voulues. Mais en même temps, puis ça, c'est l'autre aspect aussi pour les défenseurs, de penser que d'utiliser l'intelligence artificielle va nous trouver tous les problèmes qu'on a dans nos systèmes. Le même élément est complètement faux, puisque celui-ci va dépendre de la capacité des analystes à prompter correctement les agents pour les diriger vers des potentialités. Donc, on est pris avec l'imagination l'expérience des équipes de défense, de un. Et l'autre aspect, c'est qu'il ne trouvera pas toutes les facettes ou tous les problèmes en one shot ou en plusieurs itérations. Donc, il y a toujours la potentialité de trouver un nouveau chemin de par la façon qui est promptée, la façon que l'hallucination va se générer, la façon que les choses vont se placer. Donc, ce n'est pas foolproof pour les défenseurs d'utiliser ça pour sécuriser le système. Et c'est en ça qu'il faut revisiter la façon qu'on design nos systèmes et de voir plus comment une maison repousse l'eau le plus loin possible, que des facettes de la maison sont étanches face à l'eau, notamment le toit, par exemple, est étanche face à l'eau, la façon qu'on utilise le goudron pour l'étanchéité des maisons. Mais donc, c'est dans cette réflexion-là qu'on devra voir comment on va modifier notre approche à la cybersécurité pour se protéger par rapport à ces différents changements-là qui s'en viennent devant nous. Donc, comment on va le gérer. Et ça fait partie un peu de ce que j'ai dans mon quotidien, dans mon day job, quand je ne suis pas pris, quand celui me... En tout cas, bref. Me place dans ce contexte-là. Deux petites nouvelles intéressantes par rapport à ça. Autant Anthropic a sorti Opus 4.7 que OpenAI a sorti GPT 5.4, qui les deux, dans les deux cas, ont fait le même genre d'annonce, qu'il est encore sécuritaire, qu'il y a des balises de sécurité. Et d'ailleurs, en Opus 4.7, il semblerait qu'il y a des vérifications pour s'assurer qu'il n'est pas utilisé de façon hostile en cybersécurité. Il pourrait avoir des guardrails qui sont en place pour limiter cet élément-là. Donc ça, puis la même chose chez OpenAI. Donc, ils prennent quand même au sérieux quand même un certain degré de responsabilité qui est fait de ces fabricants-là. Mais bon, bref, on se place dans une situation qui va révolutionner ce qui est devant nous. Donc, nous sortir de notre terrain connu, changer nos paradigmes pour aller un peu ailleurs. Sous-section suivante sur toute la fête de nudification de photos. Deux nouvelles intéressantes. Puis la première, je l'aime bien parce qu'il est devenu public que Apple a mis pression sur Grok, donc X, de changer ces choses pour filtrer ou limiter la capacité du modèle à sortir des photos pornographiques. Par ailleurs, ça a été d'une efficacité incomplète puisqu'on en a encore, les problèmes sont encore existants, tout ça, mais Apple a quand même mis de la pression au moment où il y avait tout le fiasco qu'on a vu dans les médias associé à ça. Donc, en background, puis c'est la stratégie toujours d'Apple de fonctionner en silence, de ne pas faire des grandes déclarations publiques. Dans l'occurrence, celle-ci aurait été quand même pas de faire un un esclandre sur les médias sociaux comme le font certains autres, mais au minima de signifier qu'ils prennent en main la situation et qu'ils traitent le problème cette nudification-là amène. Donc, ça aurait été probablement favorable ou aidé peut-être un peu l'écosystème à se positionner davantage par rapport à ce que la situation qui est tout à fait terrible, qui est amenée par Grok et qui est encore actif maintenant. Et ce qui mène à la deuxième nouvelle sur le fait que le problème de nude, si on prend le terme anglais, est très, très grave dans la plupart des écoles, notamment secondaires, selon l'article, et que l'effet est très, très important, que les encadrements associés à ça n'est pas suffisant, que les lois ne sont pas encore prêtes, les législateurs ne sont pas encore tout à fait, ils commencent à avoir certains pays ou blocs qui sont en train de faire des actions, mais il demeure que globalement, c'est insuffisant par rapport à la situation que ces jeunes filles-là principalement vivent dans leur milieu, l'espèce de bullying qui est associé à cette situation-là, qui est quand même assez terrible globalement. Là. C'est quand même assez agressant. C'est aussi pire que de taxer, que de voler les lunchs, que de bousculer ou d'agresser les personnes. Donc, en termes de violence, la nudification est quand même très, très importante comme portée de geste. Et le peu de sérieux avec lequel, ou le peu de vitesse à laquelle c'est traité est très, très, très inquiétant. Étant le père de filles, ça m'inquiète énormément, cette situation-là. Ils ne sont plus en âge de subir une partie de ce problème-là, mais ils ne sont pas exempts encore de ça, puisque c'est un problème qui est maintenant généralisé, qu'on a ouvert la boîte de Pandore, que Elon Musk a ouvert la boîte de Pandore, et qu'on est pris avec des problèmes qui sont quand même assez importants par rapport à ça. Et je crois qu'il devrait y avoir des actions concrètes et très sérieuses pour agir contre ce fléau-là qui va gâcher la vie de bien des jeunes filles, en l'occurrence, et qui va déstabiliser l'ordre social dans lequel on est, ou cette forme d'équilibre-là qu'on a eu, ce qu'on pourrait dire les années dorées, le Golden Age, de paix sociale relative, on s'entend, là, il y a toujours des choses qui sont imparfaites. Et là, on aurait basculé d'un côté où on n'a pas atteint l'ultime âge d'or de la paix sociale, si on veut, de l'équilibre et de la parité. Puis on est même, avant même d'atteindre le total équilibre, on est en train de rebasculer vers des positions négatives qui vont être toxiques pour ce qui s'en vient devant nous. Ça me désole énormément, cette situation-là. On sort de ces sections-là. Un article sur un post sur le blog de Schneier, très intéressant, puis qui reprend des études. Et un des éléments troublants, c'est l'aspect de confiance ou l'aspect psychophone des chatbots a sur la conception du monde des gens et tendance à ancrer ou donner la perception que les gens ont raison, donc les réconforte dans leurs croyances qui ne sont pas toujours exactes, et ça nous amène ce qui va amplifier énormément l'aspect de conspirationniste, puisque ces gens-là vont tendance à aller chercher, et pas qu'on ces gens-là ont nécessairement une prédisposition à ça, mais va nous amener à tranquillement nous amener dans un contexte où nos biais naturels, pour ça on en a tous, vont être confirmés, et plus le AI reconfirme ce biais-là, plus il est ancré en nous et plus il devient résistant à changer ce biais-là face à une situation qui devrait normalement corriger cette façon-là d'aborder normalement le contact social ou la régulation du groupe. Agit en temps normal dans une société saine pour rééquilibrer la perception du monde de chaque individu, donc notamment des enfants vers les adultes, et permet d'avoir un compas de sens commun, si on veut, qui s'organise automatiquement par l'effet du groupe. Et dans ce cas-ci, le fait que le groupe n'a pas cette richesse-là pour aider les individus à calibrer leur boussole, puisque l'AI a tendance à juste vouloir être sycophante, donc vouloir être ton ami, va juste renforcer des biais qu'on a. Et négativement, il va nous amener à percevoir, en tout cas, bref, nous amener dans un chemin, un mauvais chemin, c'est vraiment pas positif. Puis c'est un peu le même problème que les réseaux sociaux ont amené. On a vu les grands procès qui sont en cours aux États-Unis. On voit beaucoup d'études qui sortent sur les effets dommageables sur les adolescents, sur les enfants. Donc, on voit un effet encore plus important, bref, sur avec l'intelligence artificielle qui va amplifier encore plus cette situation-là de désordre mental dans lequel on place toutes ces nouvelles générations-là face à ces outils-là qui sont pas adaptés ou qui ont été conçus pour nous rendre dépendants de ceux-ci. Donc, c'est un peu particulier globalement, cette situation-là. Je pense qu'on a une réflexion sociale à avoir sur ça et ce qu'on veut faire et comment on veut agir. Puis j'ai d'autres nouvelles qui sont relatives à ça, qui sont plus loin. Fait que bref, je vais arrêter d'en parler là. OpenAI change ses certificats sur son client macOS à la suite de la faille de Axios. On voit à quel point la ramification du supply chain a des effets sur beaucoup d'autres logiciels. Donc ici, on agit par prudence et avec raison. Il faut être très, très prudent parce qu'on ne mesure peut-être pas bien à quel point cette vulnérabilité-là nous a amené du fait que tout l'effet de supply chain a réussi à rentrer. Donc bref, c'est une très bonne chose. Comment les attaquants pensent avec du AI, reprise sur le blog de Schneier. C'est un abstract qui était juste là d'une recherche complète que je n'ai pas lue. Mais l'abstract était suffisant pour voir à quel point le milieu criminel, les dits hackers, sont intéressés et comment ils s'approprient tranquillement cet outil-là. Donc, ils n'ont pas peur, ils n'abordent pas, mais en même temps, sont, je dirais, calmes face à ça. Ils ne font pas une approche comme on voit du côté pas criminel, où les gens se garochent dessus, puis cherchent à faire tout et n'importe quoi avec l'AI. Les criminels sont beaucoup plus raisonnables et posés dans leur action. Puis c'est un peu fascinant globalement quand on le regarde comme ça, à quel point eux ont un modèle qui les amène pas de sauter sur la dernière tendance, mais d'aller vers quelque chose de plus, d'optimiser tranquillement leur processus. Donc, on est complètement dans une autre logique. Puis c'est fascinant de voir ça, cette façon-là. Puis je pense que ça serait intéressant d'un point de vue sociologique d'étudier cette distinction-là, pourquoi les groupes criminels n'ont pas une adoption aussi rapide. Et ça, on le voit aussi dans l'usage des outils, parce que j'ai été dans une des conférences à BotConf, ils ont fait référence à Nicoleur, qui est Charles Hamilton ici, qui avait sorti il y a une dizaine d'années un outil, puis qui commence à voir apparaître dans les groupes criminels. C'est comme Avenging, qui a pris 7 ans avant d'être utilisé par les groupes criminels. Donc, ceux-ci n'avancent pas vite, ils avancent selon la nécessité. Si on parle le cas de Evil Jinx, par exemple, bien, on commençait à utiliser ou à apparaître de façon importante dans le milieu criminel au moment où le MFA commençait à devenir très présent dans l'ensemble. Donc, ils vont s'adapter que quand c'est nécessaire, ils n'adoptent pas de façon aveugle à la dernière mode. Donc, ils vont adapter leur façon de faire par rapport à comment l'environnement se situe autour d'eux. Donc, c'est très intéressant. Et bref, je reviens sur le fait que ce serait intéressant qu'on ait des études, ou il y en a peut-être des études et que je n'ai pas vu passer. Fait que si vous en voyez, envoyez-moi ça. Je serais très intéressé de voir l'aspect sociologique, l'étude qui caractérise la façon plus pragmatique que les cybercriminels vont avoir au niveau de l'usage de nouveaux outils versus la folie que les grandes corporations, notamment américaines, mais c'est que ça contamine le reste du monde, on peut avoir sur l'adoption des outils comme l'intelligence artificielle a créé cette espèce de buzz-là qui est un des plus importants que j'ai vu en carrière. Le cloud n'était pas si pire que ça tant qu'à moi et le Web 2.0 encore moins par rapport à ça. Donc, il y a comme une gradation de folie, si on veut, par rapport à l'adoption de nouvelles technologies qui n'ont pas fait leurs preuves encore. Et à ce stade, l'intelligence n'a pas encore fait ses preuves. Ça prend plus d'années que ça avant d'avoir des études concluantes sur les effets bénéfiques et comment ça fait. Bref, tout ça est fascinant. Je regarde ça très amusé dans l'absolu. Bref, l'agentique LLM dans les navigateurs web expose à des surfaces d'attaque nouvelles. Et c'est une façon pour les gens qui se connaissent beaucoup en navigateur web, ce qui n'est pas mon cas, il y a toute une surface de programmation qui, depuis beaucoup d'années déjà, permet d'interfacer avec le navigateur web et de le faire fonctionner et d'interagir avec les applications web. Donc, on est capable d'en faire des affaires intéressantes, donc d'automatiser des sites web qui sont mal foutus parce qu'on est capable de les jouer directement dans la couche de programmation du site à travers le navigateur qui a une espèce de d'interprétation. Fait que c'est un peu comme du sideloading, si on veut, ou de l'injection dans un DLL, si on va le voir comme ça, pour ça parle un peu plus pour certaines personnes. Donc, on est capable d'intervenir par rapport à ça. Le fait que le LLM arrive dans cet univers-là, il est capable d'aller jouer aussi dans cet univers-là, donc d'aller faire modifier le comportement normal des applications et nous voiler les yeux sur des situations qui se passent. Donc, c'est très intéressant de voir qu'on ne regarde pas et qu'on ouvre les vannes très, très grandes face à ce genre de choses-là. Un peu comme OpenCloud ouvre les vannes très grandes sur des comportements qu'on ne voudrait peut-être pas et que les gens ne comprennent pas. Mon anglais a été bousculé par mon séjour européen. Encore des vulnérabilités par rapport à ça, il y a eu une adoption très rapide parce que ça avait une potentialité très intéressante comme capacité à automatiser. Par ailleurs, comme toute solution AI à l'heure actuelle, ça a été développé trop vite avec aucun paramètre de sécurité. Et donc, tous ces instances-là, il semblerait que c'est 200 000 qui disent dans l'article, qui sont facilement utilisables pour faire du phishing, notamment, ou envoyer du malware. Donc, toutes ces instances-là disponibles sont facilement utilisables par quiconque est capable de les trouver et donc de réutiliser. Fait qu'on est dans un problème où, parce qu'on donne des capacités à des gens qui n'ont pas de connaissances en algorithmie, en sciences informatiques ou tous ces univers-là, la capacité d'agir comme s'il y avait ces connaissances-là, bien, on est en train de les outiller pour se faire mal et se placer dans des situations précaires comme ça. Et en plus de jouer contre les autres, parce que dans ce cas-ci, ben, ils contribuent au problème généralisé de spam. Fait que si ces gens-là qui pensent bien faire, ben, finalement, nuisent globalement à tout le monde parce qu'ils font partie du problème, malheureusement, en l'occurrence. Google est en train de négocier un deal avec le Pentagone. Encore là, ils parlent encore des mêmes lignes rouges qu'on a beaucoup entendu avec Anthropic, un peu avec OpenAI. Donc, c'est un peu fascinant. Je ne sais pas ce que ça donne, mais c'est de voir à quel point il y a quand même beaucoup d'intérêt à jouer pour ça, pour les grands joueurs de l'intelligence artificielle. Le MCP est par design est problématique. Un article intéressant où les chercheurs ont investigué le modèle ou les spécifications de MCP et c'est pour eux fondamentalement brisé. Donc, ne permettrait pas de sécuriser correctement le protocole et donc ouvre la capacité à attaquer les MCP. Lui, il parle de 200 000, les autres aussi. Clairement, c'est un chiffre qui est intéressant, qui frappe l'imaginaire, j'imagine. Fait que c'est tous des chiffres qui sont comme probablement lancés dans les airs, tant qu'à ça, qui sont là juste pour frapper l'imaginaire, mais qui ne sont pas scrupuleusement vérifiés. Mais il demeure que le protocole est brisé, selon ce chercheur-là. Ça revient à plusieurs articles que j'ai parlé, notamment dans d'autres podcasts, où maintenant, ils vont plus aller vers du CLI que du MCP pour parler au modèle. Il y a plusieurs écoles de pensée, mais c'est encore très jeune, très peu mature. Donc, il est tout à fait normal qu'on trouve encore des problèmes et qu'on doive encore sortir des versions plus robustes, plus éprouvées de ces protocoles-là, de ces spécifications-là. Et c'est un rappel qui est assez important qu'on semble oublier à l'âge de l'intelligence artificielle et du LLM, qu'il y a beaucoup d'itératifs, il y a beaucoup d'améliorations qui s'est faites à travers le temps par le test dans le monde réel et il n'y a rien comme tester un logiciel dans le monde réel pour que les utilisateurs le brisent, de un, et que les attaquants vont venir le briser aussi, vont le tester, donc vont amener à pousser les capacités ou le fonctionnement dans des zones inattendues, soit en cybersécurité pour casser le fonctionnement normal ou soit dans le fonctionnement tout court qu'il n'atteint pas les objectifs. Bref, tester, laisser le temps à ces technologies de faire leurs preuves. Ça, on ne peut pas presser le temps. Puis c'est l'analogie que j'avais entendue en charge de projet qui est très intéressante. Une grossesse, c'est 9 mois. Ce n'est pas parce qu'on met 9 femmes qu'on va être capable d'avoir une grossesse en 1 mois. Donc, il y a des choses qui, dans tous les cas, le temps doit faire son œuvre. On ne peut pas rien y changer. Donc, dans l'adoption de ces technologies-là, c'est un exemple. Dernière nouvelle de cette section-là, la propagande avec l'usage du AI. Semblerait que l'Iran se débrouille très bien Et c'est un peu aussi un aspect de la symétrie de la guerre qui se passe en Iran. Et c'est un rappel puissant de cette facette-là. Depuis que la guerre en Iran a été déclarée par les États-Unis essentiellement, il y a beaucoup d'articles et beaucoup de podcasts que j'entends qui parlent des doctrines de guerre dans lesquelles je n'avais jamais été exposé. Puis je trouve ça intéressant parce que c'est une facette qui m'intéresse de connaître par curiosité. Toutes ces doctrines-là, comment ça a été élaboré et pourquoi. Et dans le cas de Red Teaming et Blue Teaming, qui ont été essentiellement développés par l'armée américaine, on a des facettes comme ça. Et le fait d'avoir une asymétrie dans la guerre comme en Iran est une facette intéressante dans laquelle les Américains ne sont clairement pas prêts. Le joueur dominant n'est jamais est rarement prêt à l'asymétrie de faire face à un adversaire qui est capable, avec peu d'efforts, de créer des grandes douleurs. Donc, c'est ce qu'on voit à la situation avec l'Iran. Mais bref, en termes de propagande ou l'usage de l'AI pour la propagande, ils sont, sembleraient très, très bons de ce côté-là. C'est tout à leur honneur, si on veut, en quelque sorte. Mais bref, l'horreur de la guerre étant ce qu'il est, on est dans une situation qui est précaire et ça a d'autres conséquences pour les autres. Puis justement, dans la nouvelle suivante qui change de section, dans le fond, au niveau de la guerre. Puis j'avais une nouvelle particulière où on parlait de le fait que les hackers attaquent les usines ou les centres de désalinisation en Israël. Et ça l'amène toute l'horreur de la guerre aussi sur le fait. La propagande, c'est une chose, c'est pas si horrifique que ça. En tout cas, ça l'amène pas à des morts directes ou en tout cas, ça l'amène pas à des choses comme ça. Dans ce cas-ci, de s'attaquer à des infrastructures civiles qui sont littéralement des crimes de guerre, en l'occurrence, par des groupes de hackers ou de cybercriminels ou peu importe comment on veut les appeler, ça amène à des situations où on passe la ligne rouge, qu'on tombe en crime de guerre, on tombe dans cette zone-là que la Convention de Genève a servi à baliser essentiellement, qui a eu des excès dans les deux guerres mondiales et dans lesquelles ils sont codifiés maintenant que c'est une ligne rouge qu'on ne doit pas dépasser. La façon que la guerre a été déclenchée en Iran amène à fait qu'il n'y a plus de respect de ces lignes rouges-là qui ont été placées. Donc, tout ce qui nous amène un peu d'humanité même dans la guerre, est complètement disparu. Fait que c'est un peu atroce. Puis c'est un peu dans ce sens-là que je voulais amener cette nouvelle-là que puis je ne prends pas parti dans la guerre. Là, c'est pas mon rôle de prendre position dans ce genre de conflit-là. Je fais juste avoir mal à mon humanité parce qu'il y a des gens qui sont tués là-dedans de façon... à mon sens, inutile, puisque ça aurait pu être autre. Mais bref, dans ce cas-ci, cette attaque-là, elle est odieuse. Pas parce que c'est Israël, mais c'est parce que c'est l'attaque des civils. Et l'inverse est aussi vrai quand il y a des attaques de civils qui se font en Iran. C'est aussi odieux. Les civils ne devraient pas faire... n'ont pas demandé d'être dans le conflit, même s'ils sont des citoyens tués. Bref, je vais arrêter de parler de ça avant que... Bref. Section suivante de souveraineté. Linux, c'est le support des chips Baikal qui sont du MIPS, puisque c'est un pays, puisque la Russie a des sanctions, puis là, finalement, ben, même dans l'univers open source, ça a des effets, ces sanctions-là. Donc, dans le core du kernel Linux ne peuvent plus supporter, fait qu'on a arraché littéralement le support. Par ailleurs, en Russie, ils ont fait un fork du code. Donc, ils sont capables de l'entretenir encore, du moins pour l'usage local. Mais en même temps, un fork comme ça se détache des améliorations qui sont mises dans le tronc principal et donc ils perdent tout ce qui va. Fait que c'est des effets. Fait qu'on voit comment ça va avoir des effets intéressants. L'usage de moyens de pression comme ça a des effets sur des pays qui posent des gestes qui, selon le contexte, n'est pas favorable à l'équilibre de la stabilité mondiale. L'autre nouvelle de cette section-là, il y a une loi aux États-Unis qui est en train d'être placée pour mieux contrôler les processeurs dits sensibles. dans un contexte comme ça, c'est selon le contexte dans lequel on est, je peux comprendre le besoin d'une loi comme ça, donc de limiter l'exportation, essentiellement du export control, de déplacement d'équipements pour créer des processeurs très sophistiqués ou manufacturer des processeurs très sophistiqués. Mais de l'autre côté, on a un président américain qui va barguiner des processeurs, le lever temporaire de blocage sur le fait qu'il a négocié ou que la température a été favorable. Donc, on est dans un contexte où oui, mais non. Donc, on n'a pas de prévisibilité de la part du gouvernement américain pour le moment, malgré des lois, malgré les choses en place. Donc, ça devient un peu déstabilisé ou rendre ça prévisible. C'est un peu difficile de naviguer dans cet univers-là. Vie privée, premier sous-bloc, c'est sur la disponibilité d'une application en Europe pour la vérification de l'âge pour les enfants, essentiellement, ou dire que tu n'es pas un enfant. C'est un effort intéressant. Ça ressemble, ça a été conçu un peu comme le pass vaccinal, mais en même temps, il y a eu quelques erreurs des dizaines, puis il semblerait qu'en 2 minutes, ça a été cassé. Je trouve cet effort-là intéressant, puisque ça ramène sur la tendance actuelle de vouloir limiter l'accès aux enfants et adolescents, notamment aux médias sociaux, mais aussi également à la pornographie ou à d'autres facettes. C'est à so far l'approche la moins invasive au niveau de la vie privée, contrairement à ce qu'on voit dans les lois aux États-Unis, par exemple, ou Chat Control qui a eu une existence en Europe. Là, on commence à aborder dans des facettes moins invasives dans la vie privée. Je suis favorable à ce genre de façon-là parce qu'il faut contrôler l'accès aux enfants et aux adolescents à du contenu qui qu'on pourrait considérer toxique à leur éducation, disons ça comme ça. Donc, qu'il y a des choses qu'il ne faut pas qu'ils soient exposés, indépendamment de notre allégeance, justement pour qu'on ait un développement sain chez nos enfants. Mais au-delà de ça, de le voir comme ça, mais que ça soit cassé parce qu'il y a des erreurs de 10 ans, j'imagine que ça va être itératif, on va sortir quelque chose de mieux avec le temps. Mais de voir que ça devient, comme le pass vaccinal, beaucoup moins invasif, je trouve ça intéressant parce que ça va devenir, je pense, un commun accord au niveau mondial que les adolescents en bas de, je crois, 16 ans, tout dépendant des pays, ça peut varier, ne doivent pas avoir accès à tout l'aspect toxique des algorithmes des médias sociaux, finalement, qui finit par un peu troubler leur perception du monde. Puis pas que je ne suis pas dans de dire qu'il faudrait interdire, mais au moins de se débarrasser des algorithmes plus toxiques. Puis à cette limite-là, tu sais, Mastodon est probablement beaucoup plus adapté pour les enfants ou les adolescents, puisque cette plateforme-là n'a pas d'algorithme qui vient à mettre une distorsion sur la perception du monde. C'est probablement ça l'aspect le plus inquiétant. Bref, il y a cette application-là, on va voir comment ça va l'obérer. Il va y avoir sûrement d'autres rebondissements que des gens vont démontrer que ça c'est brisé. Mais so far, on a un pas en avant vers une capacité d'être capable de limiter l'accès à ces contenus-là qui sont pas favorables ou qui ont été démontrés comme étant toxiques pour l'éducation des enfants, pour leur bien-être. Bref, mais ça amène aussi au fait qu'on a la loi en Australie qui est sortie et que l'efficacité de celle-ci n'est pas démontrée encore parce qu'il y a encore beaucoup de jeunes qui accèdent. Et c'était prévisible aussi qu'il va y avoir des contournements. Faut pas espérer que ça fonctionne du premier coup. Puis c'est un peu cet aspect-là où les gens sont là, ça n'a pas marché, puis c'est fini. C'est itératif. Il y a beaucoup de choses dans la vie qui sont itératives, que la première instance n'est jamais parfaite, qu'il va falloir évoluer. Donc, le faire avancer comme ça. Sous-section suivante, 702, le FISA section 702 est en renouvellement au niveau américain. Pas au moment de l'enregistrement, mais plusieurs jours avant, il était renouvelé pendant 10 jours supplémentaires. Il y a un combat par le IFF, notamment, pour régler un certain nombre de problèmes de cette loi-là qui est très invasive au niveau de la vie privée. Donc, la corriger, notamment protéger les informations des Américains, mais aussi mieux encadrer son usage au niveau international pour limiter le fait que, ou les dommages que ça peut avoir. Puis en même temps, c'est l'équilibre qui est à avoir sur le fait que, surtout dans un univers où le gouvernement américain est peu prévisible et a tendance à être un peu plus belliqueux dans son approche, ce type de loi-là sur lequel on haussait les épaules, et comme le CLADAQ d'ailleurs aussi, puis l'acte exécutif, l'ordre exécutif aussi qui est disponible, ces trois facettes-là permettent au gouvernement américain d'aller fouiller des données, notamment des citoyens américains, mais aussi des étrangers, selon des conditions qui sont particulières. Donc, dans une époque où on avait un gouvernement américain qui était prévisible, qui avait un certain respect du droit international et une certaine retenue, on pouvait laisser, puis ça l'a joué aussi en faveur des compagnies américaines, donc les grands hyperscalers, notamment Microsoft, Google et Amazon, mais pas exclusivement eux autres. On le voit aussi avec OpenAI, Anthropic, par exemple, là, mais ces nouveaux joueurs-là, Facebook, X et tous ces grands joueurs-là, de grandir sur des marchés internationaux parce que le droit américain, même s'il était quand même assez invasif, était appliqué avec circonspection, si on peut dire. Et le fait que ça disparaît, bien, ramène sur le fait que ces lois-là sont très puissantes et finalement sont dans un contexte où nous vont essentiellement nuire au commerce américain, donc nuire à ces grandes compagnies-là, puisque la confiance du marché est défavorable parce que le président américain n'est pas ouvert ou permet l'usage de façon intempestive de ces lois-là pour aller chercher l'information qu'il a besoin. Donc, son manque de retenue met à mal ces compagnies-là par rapport à ces lois-là. Donc, le fait qu'on puisse rajouter des balises importantes dans cette loi-là pourrait venir à recalmer l'inquiétude sur les marchés internationaux de l'usage de compagnies américaines ou de services de compagnies américaines, en sachant qu'ils vont respecter quand même assez bien la présomption de confidentialité de l'information dans laquelle transite par le système. Mais non, so far, on n'est pas dans cette zone-là. Puis j'ai peu de fois qu'on va réussir à faire quelque chose de bien avec cette loi-là. Le mood américain n'est pas dans cette direction-là. Donc, bref, on verra. Mais j'espère quand même que le FFE va réussir à faire adopter quelques modifications. Fin de cette section-là. En rafale, Meta a été informé que la reconnaissance faciale de ses lunettes pouvait causer beaucoup de tort de parler de personnes qui sont victimes de prédateurs sexuels. Donc, puis s'il y a beaucoup de problèmes dans la société, on le voit beaucoup dans Black Mirror, que ces situations-là pourraient nous amener dans des zones dystopiennes qui sont non intéressantes, même si c'est des idées qui sont sur papier potentiellement intéressantes, là, le réel, ou la façon que les gens vont l'utiliser, généralement, va vous amener dans des zones plus obscures et dans lesquelles, en général, on ne veut pas tellement aller. Des audits trouvent que Microsoft, Google et Meta continuent à traquer, même si on dit de ne pas traquer. Des études intéressantes de voir à quel point, de toute façon, l'économie de surveillance a préséance surtout. Donc, je crois que les lois en place ne réussissent pas à atteindre ou à restreindre correctement cette situation-là qui a pris racine, puis qui, je pense qu'on ne sera pas capable de déraciner facilement dans un avenir prévisible. Un article très intéressant de l'affaire sur le fait que c'est le temps de bannir la vente d'informations de géolocalisation précise, parce que de par la disponibilité des data brokers, on a accès à énormément d'informations et on est capable de retracer à peu près n'importe qui son chemin, ses habitudes et tout ce que ça va avec. Donc, il y a beaucoup de questions à voir comme ça. C'est très intéressant, très bel article qui relate les problèmes et tout ce qui va avec. Donc, allez les lire, comme beaucoup. Comme la plupart des articles que j'ai, là, allez les lire, sont super intéressants. Les vieilles voitures ont beaucoup d'informations sur nous. C'est sans surprise, mais c'est intéressant que ça soit ramené à l'avant-scène que les voitures modernes, je suis chanceux, je n'ai pas de voiture moderne ou suffisamment moderne pour qu'elle tombe dans ce spectre-là, enregistre toute la géolocalisation, mais l'enregistre longtemps sur la mémoire interne de l'auto. Il y a beaucoup d'autres éléments qui sont enregistrés de façon permanente, on ne peut pas les effacer, mais les gens ne les effacent pas ou la façon de les effacer est très complexe. Donc, ça vit longtemps avec nous. Donc, on est capable d'avoir nos allées et venues, d'avoir beaucoup de choses. Donc, c'est très préoccupant et d'être prudent avec ça. Puis toutes les nouvelles technologies nous amènent dans un contexte où il y a de plus en plus de surveillance, beaucoup plus de données, beaucoup plus de tout. Même si perso, j'aime beaucoup les données pour me servir de moyen d'amélioration et d'optimisation. Le réel, c'est qu'il faut pouvoir tracer des lignes à un moment donné où des choses ne sont pas ou ne devraient pas être tracées. Un peu comme le fait d'avoir des data brokers qui sont capables de nous tracer au pas près. Section suivante, la loi. C'est un peu la reprise que je mentionnais, le fait que la majorité des Australiens sont capables de contourner. On risque d'avoir la même chose dans les autres pays. C'est itératif. Ça va aller en s'améliorant. Et le FCC a des exemptions, notamment sur Netgear, pour les routeurs, suite au fait d'avoir banni globalement ce qui arrivait de la Chine. Selon l'article, c'est pas très clair le processus qui permet de, mais le processus est rapide, donc c'est comme une espèce de, je pense, de levier économique contre la Chine qui est utilisé à travers ça, mais ça, bref, ça va déstabiliser les marchés encore une fois, puis c'est encore un peu particulier qu'on va dans cette approche-là. Section rouge, la chaîne d'approvisionnement ne vous doit rien. Je trouve ça très intéressant comme article. Parce qu'il y a comme une présomption que quand on télécharge un paquet qui vient d'un dépôt connu, qu'il y a comme une présomption que ce code-là est propre. La réalité, c'est non. La responsabilité ultime est toujours dans celui qui utilise le package et non la personne qui développe le package. Donc, c'est très intéressant. Puis, c'est un renversement de fardeau qui est perçu. Donc, l'article est très intéressant en ce sens-là. Vous allez le voir si vous êtes intéressé par rapport à ça. Un hack très nono vient exposer un problème réel. Puis celui-ci, c'est très drôle parce que c'est du monde. Puis je comprends pas pourquoi c'est comment ça. En tout cas, bref, l'article est très, très, très amusant sous le fait qu'il y a des gens qui ont changé la musique des lumières de rue pour les piétons et ont mis des messages politiques associés à ça, là, dont notamment Elon Musk. Et Mark Zuckerberg, dans lesquels ont été utilisés avec des deepfakes de leur voix. Le problème, l'élément là-dedans, ça, c'est très comique, c'est très adolescent, c'est très juvénile comme graffiti qui est fait. Le problème le plus inquiétant là-dedans, c'est à quel point les infrastructures aux États-Unis sont peu sécurisées, qu'à quel point il n'y a pas de prise de responsabilité. À quel point les systèmes sont déployés, les yeux fermés, donc ça ensemble plus que ça. Fait que c'est très, très préoccupant de voir ça et à quel point toute l'informatique est partout et à quel point les gens ne savent pas à quel point tout est vulnérable. On est dans un contexte un peu complexe comme ça. Puis c'est pas des belles années que ça devient devant nous, puisque la quantité de désuétude ou de dette technologique qu'on va avoir de façon personnelle dans nos maisons, notamment avec ceux qui ont des équipements de maisons intelligentes, va être un problème très, très important, vu l'intelligente institut, parce qu'on va, comme les routes, on va manquer de financement à un moment donné, on va arrêter d'investir, on va arrêter d'entretenir, et on va se ramasser avec des problèmes beaucoup plus importants que juste des nids de poules dans nos routes, quand les méchants hackers ou les cybercriminels ont pris le contrôle des lumières de rue, par exemple, ou d'autres systèmes dans nos maisons, ben on va trouver ça un petit peu moins drôle, cette situation-là, et on va être prêt qu'un très gros problème. Une nouvelle suivante, la tactique classique dans O365, c'est d'installer des règles dans le mailbox, justement pour faire suivre automatiquement les courriels. Fait que c'est une tactique très, très standard. Fait que si vous voyez que ça si vous arrive, c'est une façon de détecter d'ailleurs que votre boîte a été hackée, parce que ça permet à l'attaquant de recontrôler le fait qu'il y ait des resets de mots de passe, ça permet beaucoup de choses essentiellement là, de rediriger les courriels au besoin ou dans certaines circonstances. Fait qu'à partir de là, aller surveiller si c'est le cas. Puis je trouve ça étonnant encore qu'on n'a pas tant de mécanismes qui sont ou se protègent contre des tactiques standards qu'on pourrait voir chez les attaquants. Ou que les attaquants ont constaté qu'il y avait des tactiques qui étaient utilisables, qui sont normalement légitimes et permettent d'arriver facilement à leur fin. essentiellement d'arriver comme ça. Quatre bugs de Microsoft ressortent du placard après, dont une il y a 14 ans. Essentiellement, ce n'est pas des nouveaux bugs, mais c'est des bugs avec des correctifs déjà existants qui sont répandus. Puis ça revient sur le fait que quand on va arrêter d'entretenir nos systèmes, qu'on va arrêter d'entretenir nos rues, notre asphalte, ben, il va y avoir une désuétude à laquelle ça va nous rattraper, puis qu'on est encore dans un contexte comme cela. Donc, la dette technologique qu'on a est encore de plus en plus grande, puis avec l'intelligence artificielle, on est en train de s'en créer d'autres. Donc, tout ça est fascinant. Je pense que l'intérêt premier, j'avais une blague de Kevin Beaumont, mais finalement, lui, ses posts sur Mastodon, je pense qu'on a une durée de vie de 7 jours, fait qu'elle est disparue depuis. Mais au moment où j'avais envoyé, c'est que toute l'inquiétude avec Mita, c'est très grand quand, dans le fond, la plupart des organisations ne font même pas l'hygiène de base. Donc, pour revenir à l'hygiène de base, je pense que c'est un des problèmes. Et le patching en fait partie. Avec le hackler, on est revenu à quelques reprises aussi mentionner ce genre de choses. Le NIST va arrêter d'enrichir les CVE, ou en tout cas, on va enrichir que les CVE les plus critiques. C'est un peu triste de voir comment tout ça est en train de se défaire. Je n'avais parlé au panel l'an dernier au NordSec, justement sur le fait que ces vulnérabilités-là, où le CVE, à l'époque, c'était l'absence de financement qui avait été faite, dans laquelle j'avais discuté, et le fait que les Européens avaient repris la main. Je serais plus d'accord qu'un partage ou une espèce de pool mondial où tout le monde y contribue, qu'on arrête de regarder ça chacun de son bord. Parce que moi, dans cet univers-là, d'ailleurs, j'ai eu une très belle rencontre aujourd'hui sur des podcasts, et notamment dans l'open source, ça va être très chouette. On va aborder des sujets comme ça, qu'en sécurité, il y a beaucoup de choses qui devraient être open source, comme ce genre de choses-là, comme il devrait y avoir une contribution mondiale, qu'il devrait y avoir une espèce d'une branche de l'ONU ou whatever, comment on veut faire ça. Mais qui sert le bien commun, fait que les CVE sont de ces objets de services communs que le monde devrait faire. Et comme les États-Unis ne veulent plus avoir le lead là-dessus, parce que le NIST a servi de lead sur beaucoup, beaucoup de dossiers, notamment sur la sécurité, comme ils ne le veulent plus, il faudrait que. Ça serait important que quelqu'un reprenne ça en main ou un collectif ou peu importe comment on va faire vivre ça. Mais tous ces outils-là qui, en cybersécurité, font une différence très importante sur la qualité des outils de protection qu'on a pour que les défenseurs aient un langage commun, qu'on ait des capacités communes, qu'on est capable d'avancer. Bien, dans ce cas-ci, je pense que tout intérêt à ce qu'on rassemble les ressources ensemble, qu'on fasse intervenir le privé. Je ne sais pas, je ne connais pas le meilleur modèle, mais c'est intéressant de l'explorer, justement, qu'on ne perde pas des sources d'informations, qu'on le dédouble. Notamment ma critique que j'avais faite, qui n'avait pas eu beaucoup de pong sur le panel que j'avais animé au Nordic, mais qui quand même, je trouve inquiétant qu'on commence à multiplier les sources d'informations, donc multiplier les efforts, multiplier toutes ces facettes-là au lieu de contribuer dans un gros pool commun. Bref, un navire de guerre hollandais a été repéré à l'aide de trackers Bluetooth. C'est intéressant, nous sommes tous là. Puis l'article, excusez, il se fait tard quand j'enregistre. Essentiellement, le tracker a réussi à rentrer sur le bateau. Donc, c'est pas dramatique. Là. C'est un peu moins dramatique que le coureur sur le porte-avions français. Mais bon, bref, dans ce cas-ci, c'est une lettre qui a été envoyée sur le bateau qui avait un tracker. Puis quand ils l'ont repéré, il a été désactivé rapidement. Mais le fait que le courrier ait été filtré une fois rendu sur le bateau était exposé ce type d'approche-là. Et plus tard, ce qui va amener justement le fait que le filtrage du courrier, donc avec les objets électroniques, va être fait avant d'arriver sur le bateau. Donc, l'incapacité d'envoyer jusque sur le bateau un tracker Bluetooth. Donc, c'est un peu intéressant de voir les changements comme ça, changement de paradigme. Nouvelle suivante, la nouvelle sur le fait que l'AI avait trouvé des bugs dans Vim et dans Emacs est intéressant parce que puis lui expose que d'une certaine façon, on est capable d'injecter dans le terminal juste en faisant un cat, le nom du fichier, parce que la façon que le branchement avec SSH se fait, donc la façon que le terminal envoie ou l'envoie à l'écran, l'envoie dans un terminal virtuel, le terminal virtuel là peut exécuter des commandes. Il y a un protocole qui est associé à ça. Là, je maîtrise pas très bien les explications techniques. Là, c'est un peu moins mon domaine. Je les ai compris, mais je serais pas capable de le rendre. Ces commandes-là sont interprétées, donc exécutées par le système. Donc, on est capable de jumper. Et il n'y a plus de safeguard qu'on pourrait s'attendre dans un fonctionnement normal. C'est très intéressant que même des outils très de base qu'on aurait perception qu'ils ne sont pas dangereux pourraient devenir dangereux parce que la façon qu'on présume le fonctionnement des systèmes peut aller plus loin. Puis c'est là où l'AI, puis je reviens sur ce que j'ai mentionné beaucoup, beaucoup insisté en début d'épisode, que ça va changer le paradigme, que les présomptions qu'on avait vont changer, donc on va devoir changer notre façon de programmer, de façon de protéger nos systèmes. Et ça, c'est un bel exemple de changement-là, de pivot dans lequel on devra faire. C'est pas dramatique, mais si on pivote pas, ça pourrait être moins agréable. La nouvelle suivante, Tycoon 2FA Fisher vont utiliser le device code. C'est un problème qui devient de plus en plus important. C'est compliqué. Il faut bloquer ça dans les tenants. C'est la force et la faiblesse de Microsoft d'avoir autant de capacités que ça, mais en même temps, c'est très compliqué à sécuriser tout cet élément-là. Donc, faites-le, suivez les recommandations de Microsoft qui sont pour le faire, pour le barrer. J'avais enregistré un excellent épisode avec Quentin de Sequoia sur Able Tokens. Il parlait essentiellement de ce type de choses-là. Donc ça, c'était la première partie de l'épisode, surtout le volet de device code qui devient la façon... largement utilisé. Par ailleurs, surveillez vos équipements quand vous allez le déployer. Il peut y avoir des conséquences. Microsoft Defender, il y a trois bugs que tu as trouvés. Je mets ça là, pas parce que je veux nécessairement dire Microsoft, c'est pas bon. Le point, c'est qu'il y a des comportements inattendus de certains EDR, dans ce cas-ci, c'est Defender, qui vont faire que l'attaquant est capable de trouver une anomalie de fonctionnement. On ne parle pas d'AI encore, d'anomalie de fonctionnement qui amène à obtenir un comportement voulu par l'attaquant. Dans ce cas-ci, celui qui est le plus apparent, c'est le fait que la mise en quarantaine, comment se fait, et donc de capable de faire une sortie de mise en quarantaine sur des fichiers système et donc d'écraser et de reprendre le contrôle du système. Très intéressant comme concept, là, c'est du taking of the box, mais il demeure que c'est des approches qui vont de plus en plus devant nous, donc nos systèmes ne peuvent plus présumer grand-chose et les grands fabricants, comme dans, en l'occurrence Microsoft, mais les autres grands, devront réfléchir la façon de protéger les systèmes, la façon qu'on y va. Section suivante, bleu, un article, là, c'est très intéressant sur la défense en profondeur medieval style. Allez lire l'article, c'est très intéressant de la façon de s'expliquer. Et dernière nouvelle, WireGuard sort sa version 1 en Windows. Donc, la version finale, première version officielle rendue là, ça c'est intéressant. Ça l'amène aussi le fait que la semaine dernière, il y avait eu un blocage de la part de leur licence. Donc, c'est intéressant de voir que ce mouvement-là les amène ailleurs, ont corrigé du code. C'est essentiellement ça. Et le code est plus conceptuellement beaucoup plus propre qu'il l'était. Donc, ils ont résolu plein de petites nil-knacks qu'il y avait dans le fonctionnement. Ça termine l'épisode. Encore enregistré en retard, je suis un peu déçu de mes performances. J'ai dépassé le temps, même j'avais beaucoup, beaucoup moins d'articles quand même, mais j'ai beaucoup ramblé sur une certaine section. Il va falloir que peut-être que je me contrôle un peu ou être moins fatigué quand j'enregistre pour peut-être me limiter davantage dans le partage de mes opinions. Bref, je vais essayer de la semaine prochaine d'être moins en retard. Je suis encore en déplacement, fait que c'est un peu compliqué. J'ai beaucoup de choses à apprendre dans ces déplacements-là et comment améliorer mon workflow pour arriver dans les temps et arriver à livrer de façon prévisible mon contenu. Bref, à la semaine prochaine. Puis pour les gens qui sont à IT Sec, bon IT Sec, quand vous allez écouter ça, parce que l'épisode va sortir pour la deuxième journée du IT Sec. Puis Cyberco la semaine prochaine, venez lever la main. Ça va être très, très agréable de pouvoir. J'espère avoir un peu plus de temps la semaine prochaine justement pour ne faire autre chose que du travail et de passer du temps avec des gens, avec des personnes sur place et bref, de jaser de ce qui se passe.